Je vous invite à poursuivre le récit de la vie d'Élie que nous avons maintenant médité déjà depuis quelques dimanches. Et donc, nous allons lire dans 1 roi au chapitre 18, le dernier verset de ce chapitre, puis les 8 premiers versets du chapitre 19. C'est une grande confrontation qui a eu lieu entre Élie, les prophètes du dieu Baal, une confrontation au cours de laquelle le Seigneur s'est attesté de manière forte, et après 3 années de sécheresse, enfin la pluie est venue en réponse à l'action de Dieu, à la prière d'Élie, et en signe de la puissance du Seigneur. Et donc Élie avait rassemblé tout le peuple et le roi Achab, et verset 46, alors qu'Achab monta sur son char pour partir pour Jisréel, la main du Seigneur fut sur Élie, qui passa une ceinture à ses reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Il récit continua en disant, Achab raconta à Jézabel, son épouse, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, « Que les dieux fassent ceci et qu'ils ajoutent cela si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Voilà, Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant, « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans une grotte, il passa la nuit, et soudain la parole du Seigneur lui parvint qui lui disait, que fais-tu ici, Élie ? Jusqu'ici, notre lecture. Voilà 343 jours qu'il est parti de Paris. 343 jours durant lesquels, chaque jour, cet homme dont je vous parle court en moyenne 74 kilomètres, plus de 2 marathons. À travers toute l'Europe, il a déjà parcouru depuis le 17 octobre dernier 25 328 kilomètres. Le précédent record du monde de course à pied par an était 22 581 kilomètres. Ce record est déjà battu. Mais il reste à Serge Girard 3 semaines à tenir, 3 semaines à courir jusqu'à dimanche 17 octobre prochain. Où il doit arriver à Paris. Pour moi, cet homme, dont je vous ai déjà parlé une fois ou l'autre, cet homme est à sa façon un héros, un modèle d'endurance, de ténacité, d'abnégation. De tout temps, on a valorisé ceux qui, par leur action ou leur qualité, se distinguent du commun des mortels. L'Antiquité a eu ses héros. Ulysse, fameux pour son astuce, sa sagesse, malgré toutes ses difficultés rencontrées sur la route. Hercule, exceptionnel par sa force. Achille, réputé invincible, sauf à l'endroit de son talon, qui est devenu célèbre pour cela. Et notre époque moderne n'est pas à la traîne non plus pour se fabriquer des héros. Il y a les conquérants, les résistants, les vaillants, les savants, les sportifs, on a besoin d'admirer, on a besoin de rêver, on a besoin de se projeter au-delà de nos propres limites. Et le héros incarne ce besoin de dépassement. Parfois même, le héros incarne une sorte de désir de sortir de nos limitations humaines. On pense ici au héros des personnages de fiction, Superman, Batman. Alors là, on est au-delà des capacités humaines, des personnages de fiction qui ont toutes sortes de pouvoirs. Nous avons besoin de héros. Et quand nous lisons la Bible, nous créons aussi nos héros de la foi. Ces personnages hors du commun qui incarnent une foi puissante, une confiance en Dieu sans faille, un courage prêt à tout affronter, une résistance qui tient bon envers et contre tout. Et c'est parfois au travers de ces figures que nous nous représentons ce qu'est la foi. Elle doit faire aussi de nous des héros. Nous avons suivi et lu Élie pendant plusieurs dimanches déjà, nous allons continuer à le faire. Et voilà quelqu'un qui, c'est incontestable, a vraiment l'étoffe d'un héros. Mais en même temps, la Bible est une parole de vérité. Et elle nous est donnée pour nous équiper en vue de la vraie vie. Et elle nous invite aussi à voir notre vie avec Dieu et la vie de ceux qui ont marché avec Dieu comme des vies vécues de manière authentique en tant qu'hommes et femmes véritables. Et c'est ce que nous rappelle notre texte d'aujourd'hui. Et Élie, le héros, se manifeste comme un homme de la même nature que nous. Et nous voulons nous arrêter à cela. Quel revirement entre ce texte que nous avons lu, juste à l'instant, et ce que nous avions lu dimanche dernier avec cet épisode extraordinaire du Mont Carmel, de cette confrontation où Dieu agit, Dieu intervient, et où Élie est là face à tous. Nous avions vu un Élie qui tenait bon, seul, face à tous, face au roi Akab, face à 850 prophètes de Baal, d'Astarté, face au peuple d'Israël infidèle. Nous avions vu la victoire de la foi avec ce défi lancé pour voir quel Dieu serait capable de faire descendre le feu du ciel. Nous avions vu la victoire de la prière avec une demande de pluie au terme de 3 ans et demi de sécheresse et qui est donnée à cause en réponse à la prière fervente et persévérante d'Élie. Et galvanisé par tous ces événements, porté par la main du Seigneur qui était sur lui, nous avons vu, et nous l'avons lu encore, Élie qui court devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Jisréel pour manifester que la pluie tant attendue, qui est là, qui tombe, est un don du Seigneur dont Élie est, lui, le témoin. Ce jour unique, c'est une apothéose. Ce jour unique, c'est la justification de tout l'engagement d'Élie au cours des années passées. Et Dieu s'est manifesté sur toute la ligne. Et le Seigneur n'a pas laissé tomber son témoin fidèle. Et Élie peut être reconnaissant d'avoir accompli fidèlement lui aussi la mission que lui a fixée le Seigneur. Et voilà que soudain, à quelques heures d'intervalle, ou quelques jours au plus, on voit le même homme écrasé, cassé, en train de fuir pour sauver sa peau. Lui qui avait tout affronté, perd pied complètement. Il part droit devant lui avec une seule idée, mettre le plus de distance possible entre lui et celle qui a juré sa mort. Il se coupe de tout, il se coupe de tous, il se voit en échec complet. Il se laisse tomber à terre en plein désert et demande à Dieu la mort. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Comment cela est-il possible? Les faits se résument assez simplement. Une fois Élie entré dans Jisréel, il s'y installe, probablement pour la nuit. Akab, lui, rentre dans son palais et rapporte à Jézabel, sa femme, tout ce qui s'est passé. La réaction de Jézabel est immédiate. Elle fait son affaire personnelle du cas Élie. Elle vengera tous les prophètes de Baal qu'Élie a tués. Et si Akab semble à bien des reprises impressionné par Élie, Jézabel, elle se dresse avec tout son pouvoir, toute sa force, toute sa volonté contre Élie. Et elle le lui fait savoir immédiatement. Et il ne faut pas très longtemps pour qu'Élie entende quelqu'un frapper à l'endroit où il s'est installé, un messager personnel de la reine qui vient et qui lui annonce que dans 24 heures, il est un homme mort et qu'elle mettra tous ses moyens en œuvre pour cela. La démarche de Jézabel étonne. Pourquoi envoyer un messager pour annoncer et pour dire la menace plutôt que d'envoyer tout de suite une troupe pour exécuter la menace? Il est possible que Jézabel, pour des raisons de popularité, n'ait pas estimé avoir les coudées franches pour une action directe. Mais il semble que de toute façon, c'était une femme qui exerçait son pouvoir plutôt de cette manière indirecte, en manœuvrant les choses. C'est ce qu'on verra plus tard dans l'histoire de Naboth. Et il faut reconnaître que quand même, la forme de l'action qu'a choisie Jézabel a quelque chose de terrifiant. Si la reine possède tout un réseau d'exécuteurs de mission qui est opérationnel et qui est à sa solde, elle annonce à Élie, insidieusement, qu'il ne sait pas d'où viendra le coup fatal, mais que ce coup viendra certainement. Ce n'est qu'une question d'heure. Il peut partir où il veut, ce n'est pas grave. Elle sait que dans 24 heures, ce sera fini. Et elle veut qu'il le sache lui aussi. Un accident, un mauvais geste est si vite arrivé. D'ailleurs, Élie est déjà repéré. Elle a réussi à envoyer un message là où il est. Autant qu'il sache qu'elle ne le lâchera plus désormais. Et quand il sentira le dernier coup, le coup fatal, autant qu'il connaisse aussi la signature de ce coup. C'est subtil, cette technique de l'annonce. Ce n'est pas une gesticulation, c'est une intimidation. Jézabel est sûre de sa force, maintenant qu'Élie est localisée. Elle veut qu'Élie le sache et qu'il passe dans la peur les dernières heures de sa vie. Élie capte le message, 5 sur 5, ou même 6 ou 7 sur 5, parce que la peur monte, la panique se saisit de lui, et le texte nous dit, il se lève et part pour sauver sa vie. Il marche droit devant. Chaque bourgade, chaque troupe, chaque groupe qu'il rencontre, chaque personne qu'il croise, représente une menace potentielle certainement pour lui. Et on comprend qu'il fuit tout droit devant et qu'il fuit vers où ? Vers le désert, justement. Personne, il ne veut plus voir personne. Et il ira jusqu'à même se séparer de son serviteur qui avait été avec lui jusque-là. Et l'on se demande, mais pourquoi le message de Jézabel a-t-il eu un tel effet ? Après tout ce qui s'était passé sur le mont du Carmel, ça semble incompréhensible qu'elle y réagisse comme cela après tout ce qu'il a vu de la puissance de Dieu. C'est vrai, mais attention, attention, méfions-nous de nos réflexes de lecteurs tranquillement installés dans leur tranquillité, justement, et prompts à dire « ils n'avaient qu'à faire confiance, ils n'avaient qu'à ». Entrons autant que nous le pouvons dans la situation. Que peut-on dire alors ? Première chose qu'il faut dire, c'est qu'une menace comme celle-là, quand elle est fondée, c'est du lourd. Une menace comme celle-là, quand elle est fondée, c'est du lourd. Je ne sais pas si vous avez déjà craint, une fois ou l'autre, sérieusement, pour votre sécurité. Ou si vous avez déjà sérieusement craint pour la sécurité de quelqu'un que vous aimez. Ce n'est pas une expérience humaine que l'on peut traiter d'un revers de la main. Absolument pas. C'est du lourd. Et quand ça vous tombe dessus, vous ne connaissez pas vos réactions à l'avance. Et personne ne peut dire « je m'en sortirai facile », parce que c'est du lourd. Alors c'est vrai, quand on lit le texte, on peut sourire de l'expression quand elle dit que les dieux me traitent dans toute leur sévérité si tu n'es pas un homme mort dans 24 heures. Et certains se disent « oui, mais Élie, elle avait de la preuve que les balles ne sont rien, donc il n'avait rien à craindre avec ces gesticulations de Jézabel ». Oui, mais ce n'est pas les dieux Baal qui menaçaient Élie. Ce n'est pas les dieux Baal qui menaçaient Élie. C'était Jézabel, la femme la plus puissante du royaume et qui avait à sa solde tout ce dont elle avait besoin comme moyen. C'était ça la vraie situation. C'était du lourd. Et j'aimerais dire et rappeler que cela nous arrive aussi, en tant que chrétiens, de connaître soudain du lourd dans notre vie, comme Élie ce jour-là. Et comme pour Élie, il suffit parfois d'une annonce qui vient troubler notre vie, et le cours de vie qui était le nôtre. Un délégué syndical qui annonce un plan de licenciement. Et vous êtes dans le lot. Comment vous maîtrisez toutes les pensées, toutes les craintes, tous les sentiments qui vous traversent dans tous les sens à ce moment-là? Un résultat d'analyse médicale qui annonce un cancer et tous les protocoles qui s'en suivent. Que faire alors des émotions, des angoisses, de tout ce qui monte d'on ne sait où et qui vous traverse, qui vous tétanise? Vous apprenez que quelqu'un que vous aimez se met en danger par ses comportements et que vous n'avez aucune prise, vous ne pouvez rien faire. Que faire de cet étau qui vous oppresse? Comment brider l'imaginaire et tout ce qu'il vous suggère? Je n'ai pas de réponse à donner à toutes ces questions, mais je veux juste dire, au travers de ces exemples, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons respectueux aussi de ce que les uns ou les autres peuvent vivre. Ne traitons pas par du yaka ou par des formules toutes faites, ce qui est parfois tellement exigeant, totalement nouveau, inédit pour celui ou celle qui doit le vivre. Soyons humbles, respectueux. Il y a parfois du lourd, et il suffit d'une annonce. Une deuxième remarque, c'est que nous sommes parfois étonnamment vulnérables. Qui aurait pensé qu'Élie puisse perdre pied et céder à la peur comme il l'a fait? Et pourtant, quelque chose a fait que le message de l'envoyé de Jézabel ce jour-là, à 7 heures, a eu un impact qu'on n'aurait jamais soupçonné. Quand nous pensons à nos fragilités, et je pense que nous savons tous que nous en avons, il y a celles que nous connaissons, les fragilités que nous connaissons. Je crois qu'il est bon, lorsque nous connaissons nos fragilités, d'essayer d'être vigilants, de prier Dieu pour qu'il nous aide en face de ces fragilités qui nous donnent les forces dont nous avons besoin. Nous cherchons aussi dans la parole de Dieu, dans la prière, les aides et les ressources pour ne pas trop donner prise à ces fragilités. Mais il y a aussi, parfois, des vulnérabilités que nous ne connaissons pas, ou que nous ne connaissons pas à l'avance. Et nous ne savons pas forcément à l'avance que quelque chose va nous toucher aussi fort et nous rejoindre comme cela, à un moment alors que d'habitude, ça ne nous aurait pas déstabilisé. Ça m'est arrivé une fois, je m'en souviens bien, il y a une vingtaine d'années. Je devais intervenir comme orateur dans un colloque. Et bon, après, avant une intervention comme ça, je suis un peu tendu. Un peu angoissé, et j'étais allé, pour prendre un peu la température, écouter l'orateur qui me précédait, pour savoir un peu comment ça se passait. Un orateur brillant, professeur d'une faculté libérale, avec des idées sur Dieu assez dangereuses pour une foi qui se veut fidèle à l'Écriture. Je pense qu'en temps normal, j'aurais écouté, je me serais distancié, j'aurais fait la part des choses à peu près, mais là j'étais sous pression. J'étais un peu fatigué, il y avait ce que je devrais faire après lui. J'étais écrasé par son éloquence, je devais parler après lui, c'était horrible. Et tout cela se mêlait en moi. Et ça fait que tout ce qu'il disait est entré en bloc en moi, comme un paquet complet. Et il m'a fallu des mois et des mois pour me remettre de ces choses qui étaient rentrées. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris que il y a des vulnérabilités que nous ne maîtrisons pas. Ils peuvent, comme cela, être dépendantes aussi des temps, des moments. C'est d'ailleurs pour cela, me semble-t-il, que le diable a proposé à Jésus une tentation aussi grosse que de lui demander de l'adorer. Vous savez que le diable a demandé ça à Jésus, il dit « Si tu m'adores, je vais te donner les royaumes ». Mais c'est immense de penser à Jésus qui puisse adorer le diable, mais ce n'est pas possible cette histoire-là. S'il l'a fait, c'est parce qu'il sait que parfois, des choses aussi énormes peuvent marcher. Nous ne sommes pas maîtres toujours de nos réactions. Et c'est ici, me semble-t-il, qu'une prière comme celle que Jésus nous a enseignée dans le Notre Père est importante à vivre et à intégrer Lui qui nous invite à dire régulièrement, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prier cela, c'est reconnaître nos fragilités, ne nous met pas dans une situation qui, à cause de nos fragilités, deviendrait trop dure, une tentation qu'on n'arriverait pas à surmonter. Mais délivre-nous du mal. Et nous avons besoin là aussi, régulièrement, de nous mettre dans la perspective de nous confier dans le Seigneur et de lui demander vraiment sa grâce et son soutien. Nous ne sommes pas maîtres de toutes nos fragilités. Troisième remarque, c'est qu'on ne vit pas très longtemps d'une victoire passée. On ne vit pas très longtemps d'une victoire passée. Ce qu'Élie a vécu au Carmel, avec la victoire sur les Baals, etc., a été magnifique, ça a été clair, ça a été net. Mais pour faire face avec résolution à la menace de Jézabel, il fallait, à partir de ce qu'il avait vécu, reprendre une attitude de foi, reprendre une attitude de vigilance, reprendre une attitude de combat. Mais ce n'est pas facile de faire ça après un grand moment qu'on a vécu, comme ça a été le cas pour Élie. Quand on a vécu quelque chose de grand, on a tellement envie de se laisser aller un petit peu en roue libre, de laisser les choses courir. Et on ne va pas très loin quand on est en roue libre. On ne va pas très loin en roue libre. Pour avancer, il faut affronter, il faut se mobiliser, il faut appuyer sur les pédales. Pensons-y si nous avons vécu de grands moments. Pensons-y si nous avons vécu récemment un temps fort. Ou si nous venons peut-être de franchir une étape qui était importante pour nous, de surmonter un obstacle, c'est bien, c'est beau, mais vous ne vivrez pas longtemps de ça. C'est chaque jour qu'on a besoin de se remobiliser tout à nouveau, mais en se remobilisant, on peut aussi capitaliser tout à nouveau ce qu'on a reçu. Donc il ne s'agit pas juste aussi d'oublier ce qui a été les grandes délivrances vécues. Prenons le temps, jour après jour, de nous replacer devant Dieu, pour affronter les choses. Là, me semble-t-il, pour le contexte, une première chose qu'on peut dire par rapport à cette expérience d'Élie. Et il semble bien que Élie, après sa grande victoire, n'a pas su, en tout cas, se remobiliser auprès de Dieu. Et il s'est concentré surtout sur la menace. Et tout d'un coup, c'est cette menace qui a commencé à remplir tout l'espace intérieur qui était le sien. Il a laissé toute la place à cette menace. Et du coup, les émotions, les sentiments ont pris le dessus. Et c'est d'abord la peur qui s'est installée. Avec ce mot-clé obsessionnel, certainement, il faut fuir, fuir à tout prix. Élie, pour ce faire, quitte l'endroit où il se trouve. Nous savons que pour nous, il existe d'autres manières de fuir. On n'a pas besoin de partir de l'endroit où on est. Parfois, on cherche à oublier simplement. Parfois, on cherche à s'étourdir. On se replie complètement sur soi, on fait la politique de l'autruche, mais c'est pareil, on n'affronte pas, on fuit. On n'oppose rien à la menace ou à ce qui nous fait peur. Et du coup, la peur gagne, elle saisit, elle remplit tout, et on ne voit plus que tous ces éléments difficiles, comme les disciples sur la barque, qui ne voyaient que tout ce qui était là, qui soufflait autour d'eux. Et Élie, dans notre texte, on le voit, de ville en ville, est toujours poussé plus loin dans sa fuite. La peur engendre la peur. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'on a peur, on se fait des films. Et on ne fait plus ensuite la différence entre tous les films que notre peur nous suggère et la réalité qui est la nôtre. Et un nouveau film prend le relais. Et les films précédents qu'on s'est fait reviennent. Et ça tourne en boucle et ça remplit tout. Et c'est l'enfermement. Pour rompre ce type d'enfermement, il faut un geste fort. Il faut marquer un temps ou des temps de véritable arrêt. Et il y a des moments où la Bible nous invite à savoir dire stop. Le texte dans le psaume 46 dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il y a des moments où nous avons besoin vraiment de cela. De dire oui, stop. Et je veux mettre autre chose que ce qui est là en train de me remplir. Tout l'esprit de tous ces films que je me fais et qui me terrorisent ou qui m'empêchent d'avancer. Arrêtez. Jésus, à Gethsémané, a eu besoin, lui, d'une prière répétée, d'une prière profonde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette prière, Jésus a traité en quelque sorte la peur qui était la sienne en face de ce qu'il devait vivre. Il a traité cela dans la présence de son Père. Et Jésus n'a pas simplement crié à Gethsémané, aide-moi, délivre-moi. Mais il a pris le temps de parler à son Père de cette coupe qu'il devait boire. Il a parlé à son Père de cette difficulté qui était la sienne de la boire, de son souhait même de qu'elle puisse lui être épargnée. Jésus a dit cela. Il a vécu véritablement tout ce qu'il ressentait. Il l'a traité devant Dieu en demandant ensuite, bien sûr, au Seigneur que ta lumière se fasse et en disant que ta volonté soit faite. Et il s'est remis dans l'axe de la volonté du Père, mais non pas par déni en ayant traité tout cela, en faisant cette opération vérité sur lui-même. Il nous faut savoir à certains moments, si nous laissons saisir par toutes sortes de craintes, d'angoisses, avoir cette même démarche. Savoir dire stop, arrêtez, sachez que je suis Dieu, et avancer avec ce que nous ressentons devant Dieu comme Jésus le fait. Après la peur, si on regarde Élie, c'est l'isolement et le repli sur soi qui prennent le relais. Et c'est vrai que quand on vit un gros choc, ou une réalité terrible qui nous frappe, c'est quelque chose qui nous isole des autres. C'est tellement singulier ce que l'on vit qu'on a l'impression qu'on est tout seul. Et il y a un cheminement à parcourir, un cheminement singulier, particulier, que personne d'autre ne peut parcourir à notre place lorsque on est devant une grande difficulté. Il y a une sorte de solitude profonde, fondamentale, qui est liée à la souffrance ou à l'exigence. Et du coup, la tentation est vraiment présente d'ajouter, en quelque sorte, à cette solitude fondamentale, d'ajouter le fait de se replier sur soi, de s'enfermer dans le silence ou dans ses propres pensées, et de se construire une sorte de bunker de solitude. Et vous voyez ce qu'elle y fait ici ? Il y fuit non seulement Jézabel, mais fuit tout le monde. Il veut partir dans le désert. Il ne cherche pas de vis-à-vis, il s'enferme. Même son serviteur, en dernière étape, il le laisse là où il est. Ils auraient partagé beaucoup de choses. Il dit, stop, tu restes là. Je pars tout seul, tout seul, tout seul. Et quand il parle à Dieu, c'est encore avec le même esprit, en lui disant, laisse-moi, prends-moi la vie. La solitude, l'isolement, sont des vraies tentations lorsque nous vivons des passages difficiles comme Élie, mais cela ne mène finalement pas à grand-chose lorsque l'on traverse un passage exigeant. Nous avons besoin aussi de vis-à-vis extérieur. Parler à quelqu'un déjà aide à clarifier pour nous-mêmes ce qui nous traverse. Mettre des mots en face de quelqu'un sur ce que nous ressentons, c'est important, ça. C'est un geste d'ordre intérieur qui est nécessaire. Et seule la parole, parfois, peut véritablement donner ce geste d'ordre. Et aussi difficile que ça puisse paraître, nous avons aussi besoin, à certains moments, de pouvoir parler à des personnes ou à quelqu'un qui est bien ancré sur une rive différente de celle des difficultés que nous vivons. Un bateau qui est dans la tempête, il a besoin d'un phare bien ancré sur la terre ferme, hors de la tempête, pour avoir un repère. Et si un sauveteur arrive une fois dans un bateau, il faut qu'il ait un point d'appui, qu'il ait un ancrage extérieur à la tempête. Même Jésus, lorsqu'il est dans la barque avec ses disciples, a un ancrage très fort dans la relation qu'il a avec son Père et dans tout ce qu'il a comme proximité avec lui. Nous avons besoin, lorsque nous sommes dans des situations aussi difficiles qui pourraient déjà en soi nous isoler, nous avons besoin de personnes extérieures capables aussi de nous rejoindre tout en gardant leur ancrage. Alors il ne s'agit pas de parler de tout à tout le monde, mais d'avoir une personne ou deux solides qui peuvent nous aider à trouver ou à retrouver des ancrages. Et je me permets peut-être d'ajouter que lorsqu'avant une difficulté, on a déjà cultivé des relations authentiques, profondes et sincères, cela donne d'autant plus d'aide lorsque survient le moment difficile ou l'épreuve. Besoin de vis-à-vis. Et Élie ici fuit le vis-à-vis. Et je dirais que dans ces situations-là, nous avons aussi besoin et tellement du vis-à-vis avec Dieu et d'un vis-à-vis tout particulier avec la parole de Dieu. Et j'aimerais juste nous rappeler cela. Si nous traversons des moments difficiles, de grandes difficultés, c'est bien de prier. Mais j'aurais tendance à vous dire, ne priez jamais, ne prions jamais sans la parole de Dieu lorsque nous sommes en grande difficulté. Parce que même la prière, toute seule, peut devenir un enfermement de plus. Voyez ici Élie, il prie et il dit, « C'est assez Seigneur, maintenant prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Si on reste simplement dans son monde, dans ce que l'on ressent, la prière même parfois n'est pas une aide et nous enferme encore plus. C'est une prière ici, mais elle renforce l'isolement. Parce qu'Élie ne cultive pas vraiment ou n'a pas vraiment ici de vrai vis-à-vis dans cette prière. Et je crois qu'une des grandes aides qui nous est donnée dans ce genre de situation, c'est de pouvoir prier avec la parole de Dieu. Prendre un psaume qui nous rejoint, qui correspond à ce que nous vivons, et prier ce psaume avec les paroles laissées par Dieu pour nous aider justement à prier. Et on va découvrir parfois des paroles qui nous obligeront à nous battre. Il y a des choses qui vont nous faire du bien et qu'on pourra se saisir, dont on pourra se saisir pour dire une confiance que l'on n'avait plus tout seul. Il y aura parfois des promesses qui nous seront données avec lesquelles il faudra un petit peu batailler pour les faire nôtres, tout comme Jésus, à Gethsémané, a bataillé pour rentrer dans la volonté de son Père. Mais on entre là dans le vis-à-vis avec Dieu. Et veillons à ce que nos prières, dans les moments les plus difficiles, gardent ce côté de vis-à-vis. Et l'aide qui nous est donnée, c'est de prier avec la parole de Dieu. Et là, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous soutenir. Troisième enfermement d'Élie, c'est le sentiment d'échec et l'apitoiement sur lui-même. Il est tellement submergé par ses peurs et par l'échec de sa fuite, il n'est pas très fier de lui certainement alors qu'il s'en va, et du coup c'est toute sa vie qui lui apparaît comme un échec. Pas meilleur que mes pères, c'est pas la peine de continuer, dit-il. Tout ce qu'il a vécu est revu avec cette note un peu comme s'il y avait du gris qui était partout sur toute la vie d'Élie. Tout est revu avec du gris. Même les grands moments sont relativisés. Et Élie donc se dit, oui, je ne suis pas meilleur que les autres. Et du coup, il entre dans un autre schéma où il se plaint lui-même et où il se pose en victime. Je me suis battu tout seul, il n'y a personne d'autre. Et en plus, c'est un échec. C'est le syndrome de l'apitoiement, où l'on se pose en victime, où l'on se déclare soi-même malheureux, et où même dans ce malheur, on se construit une sorte de petit bonheur en se consolant soi-même par la plainte, par le fait qu'on se plaint soi-même. Troisième sentiment donc, troisième enfermement, celui de l'échec, de l'apitoiement. Oui, vous le voyez, Élie était un homme de la même nature que nous. Et c'est évident lorsque l'on essaie de suivre ce qu'il a vécu. Alors comment est-ce que le Seigneur a soutenu et secouru son serviteur Élie? Je vous rassure, nous gardons ce volet pour la prochaine prédication. Mais je relève quand même trois repères. Première chose, repères généraux. Le Seigneur n'abandonne pas Élie à sa détresse et à son désert. Il n'abandonne pas Élie à sa détresse, à son désert. Élie a fui droit devant, en allant jusqu'à l'ultime fuite en avant, en disant « Seigneur, prends-moi la vie, je ne vaux rien. » Et voilà une prière que Dieu a eu la bonté de ne pas exaucer. Il ne lui a pas pris la, il n'a pas pris la vie, et il a préféré le remettre sur de nouveaux rails. Comme le dit le psaume 40, « Le Seigneur s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris, mais il m'a retiré de la fosse. » De destruction du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur un rocher, il a fermé mes pas. Et le psaume 40 continue en disant, beaucoup l'ont vu et se sont confiés dans le Seigneur. Et c'est précisément la raison pour laquelle cet épisode nous est laissé dans l'Écriture, pour que, en voyant ce qui s'est passé pour Élie, nous nous confions nous aussi au Seigneur, qui est présent, qui ne nous laisse pas même en nos extrémités. Deuxième repère que l'on voit dans ce texte, c'est que le Seigneur ne vient pas vers Élie en lui passant un savon, parce qu'il s'était laissé casser, parce qu'il s'était laissé décourager par le message de Jézabel. Et c'est assez remarquable, nous le verrons, de voir que Dieu, plutôt que de sermonner Élie, s'est engagé à ses côtés, dans sa difficulté. Et on voit Dieu qui agit avec beaucoup de tact et de délicatesse pour relever Élie, son serviteur fidèle, pour le fortifier aux endroits où ça lui faisait mal, plutôt que de lui reprocher ses points de faiblesse. L'action de Dieu à l'égard d'Élie est ici en plein dans la ligne de ce qu'il révélera pleinement en Jésus-Christ. Nous avons un Dieu de compassion. Nous avons un Dieu de compassion, vraiment. Il ne cassera pas, il ne cassera jamais le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Et c'est une invitation pour nous à avoir, à garder confiance dans les ressources de la grâce de Dieu, dans les ressources de l'amour fidèle de Dieu envers nous. Elle reste là pour nous soutenir, nous porter, nous relever, même lorsque nous sommes bien bas. Et puis troisième remarque, c'est que le Seigneur ici ne va pas brûler les étapes pour relever Élie. Nous le verrons, Dieu prend le temps et il y aura plusieurs étapes. Dieu travaille avec le temps. Il consolide un point, puis un autre, puis un troisième. Entre deux consolidations, il y a des pauses, ensuite des reprises, le temps que les choses s'installent un petit peu. Et c'est souvent aussi comme cela que Dieu agit dans nos vies. Il y a place pour des consolidations progressives. Mais Dieu, c'est ça ce qu'il faut relever, Dieu est à l'œuvre dans ces consolidations progressives. Et il est à l'œuvre avec patience, et il est à l'œuvre avec persévérance. Il est à l'œuvre avec amour, il est à l'œuvre avec compréhension. Il sait de quoi nous sommes faits, il en tient compte. Et j'espère que cela nous encouragera aussi à la patience, à la confiance, à l'espérance. Alors nous n'avons pas à nous rêver comme des super-héros, invincibles et sans faiblesse. Dieu accepte de cheminer avec nous tels que nous sommes. En même temps, il nous aime trop pour nous laisser simplement tels que nous sommes. Ça, c'est autre chose. Et le psaume 37 nous dit « Le Seigneur affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car le Seigneur lui prend la main. » En effet, le Seigneur aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Psaume 37, versets 24 et 28. C'est pourquoi nous pouvons en toutes circonstances trouver dans nos vies sa présence, tenir une lampe allumée, choisir avec le Seigneur la confiance, aimer et nous savoir aimer. Amen.